La Bible nous concerne parce qu'elle raconte nos histoires. Ce que j'ai aussi appris en lisant Paul Beauchamp, jésuite, vous voyez, je suis dans le dialogue interreligieux, c'est que c'est quand on lit la Bible qu'on apprend à la lire, en fin de compte, et qu'il n'y a pas d'autre manière de découvrir le texte biblique qu'en le lisant. Donc il n'y a pas de méthode. Et surtout, et ça c'est très important, ce que je crois vraiment, c'est que lire la Bible, c'est d'abord du plaisir. C'est d'abord découvrir des gens, des personnages qu'on va aimer, qui vont nous énerver, qu'on va détester, découvrir des situations pénibles, découvrir des situations heureuses, enfin, voilà. Et qu'il n'y a pas de méthode pour lire, sauf une, qui est en régime chrétien, que le Christ est le principe d'interprétation et de compréhension des Écritures. Mais qu'à ce titre, l'Ancien Testament est tout aussi intéressant que le Nouveau, mais le principe de l'ensemble. J'ai aussi appris une troisième chose en lisant cette fois Jacques Ellul, auteur réformé bordelais en France, qui a écrit beaucoup d'ouvrages sur la technique et des commentaires bibliques fabuleux. J'ai appris avec lui que la Bible n'est pas un livre de réponses, mais un livre de questions. Et que l'enjeu de lire le texte, c'est d'écouter les questions que le texte nous pose. Et il me semble que c'est Origène, alors ça, j'ai lu ça il n'y a pas très longtemps, mais je n'ai pas retrouvé la source, qui explique que sa manière de lire la Bible, c'est précisément d'être lu par elle. Donc vous voyez quelque chose qui est de l'ordre de la rencontre avec des situations bibliques, où on va découvrir des personnages, des situations, qui nous disent quelque chose de nos vies, qui nous permettent de mieux comprendre nos vies. Et Philippe Lefebvre dit ça volontiers, que si on fait très attention aux personnages inconnus, épisodiques, qui payent pas de mine, du texte biblique, on a quelque chose de faire plus attention dans nos vies aux personnages inconnus, épisodiques, qui payent pas de mine. Et inversement, quand dans nos vies, on fait attention aux gens qu'on remarque pas trop, distraits, tout ça, on a quelque chose de mieux les voir dans le texte biblique et de mieux apprendre ce qu'ils ont à nous dire. Je vous invite à lire un très beau texte qu'il avait écrit sur les vies minuscules dans la Bible. Petit personnage biblique. Enfin, je vous invite à lire tout ce qu'écrit Philippe, de manière générale, tout ce qu'écrit Paul Beauchamp et tout ce qu'écrit Jacques Ellul. Voilà. Bon, là, vous en avez pour votre retraite et tout ira bien. Alors, comment lire Philippe? Je vous disais tout à l'heure, il n'y a pas de méthode. On peut avoir des lectures continues. Donc, par exemple, prendre un évangile et puis le lire en entier, c'est pas mal pour le carême, de lire un évangile en entier. Bon. Celui de l'année liturgique, pas mal. Manque de bol, c'est le plus long en ce moment, c'est Matthieu, mais bon, ça prend quand même que 2 heures, hein. Faut pas non plus exagérer. Parce que ça met dans une perspective l'ensemble des textes qu'on lit de façon saucissonnée dans la liturgie eucharistique. De les resituer dans l'ensemble de l'évangile, c'est pas mal. Ça peut être aussi de choisir un thème. Alors, une fois, je m'étais amusée, j'étais partie il y a très 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 longtemps, parce que je pense être vieille, une vieille sœur, j'étais partie il y a très longtemps en Espagne dans un cadre de programme Erasmus, et du coup j'avais arrêté mon travail à la prison, et du coup je m'étais dit qu'est-ce que je vais faire pour la Bible? Je vais chercher où il y a des prisonniers dans la Bible. Alors selon vous, qui est le premier prisonnier biblique? Le premier prisonnier biblique, à part Joseph, c'est une fausse réponse. Vous n'avez pas trouvé parce que c'est une question piège. L'arbre de vie qui est enfermé dans le jardin de la Genèse avec des chérubins armés jusqu'aux dents. Et quel est le dernier à être libéré dans l'Apocalypse? Facile, l'arbre de vie qui se retrouve dans la Jérusalem nouvelle, avec situé au milieu d'une ville ouverte. Tout le monde peut y accéder. Et peut-être que lire la Bible peut-être nous apprend que la Bible raconte l'histoire de la libération de l'arbre de vie. Et l'arbre de vie, quand on regarde un peu arbre en grec, zoulon, où est-ce que c'est, on va retrouver que ça peut aussi signifier la croix. Peut-être que la croix nous montre le passage de la libération de l'arbre de vie. Comment, sans vouloir immédiatement faire un vernis spirituel ou gazeux pieux, et comment dans ma vie, la lecture de la Bible libère en moi des puissances vives? Comment ça me rend plus vivante? la pratique de la foi chrétienne à travers les œuvres de charité comme à travers les sacrements libère en moi de la vie. Je trouvais que c'est une question intéressante, donc oui, que je me suis posée en essayant de chercher où est-ce qu'il y avait des prisonniers dans la Bible. Donc, c'est une manière de faire, donc une lecture par thème. Vous pouvez par exemple chercher l'Isope, et vous allez voir que l'Isope, il n'y en a pas beaucoup. Donc ça c'est intéressant comme thème, parce que maintenant sur Internet, on peut trouver avec des concordances très facilement où est-ce que les mots sont dans le texte biblique. Et vous allez découvrir que l'Isope, on la trouve au passage de la Pâque, dans les livres de l'Exode. On la trouve dans le psaume 50. Purifie-moi avec l'Isope et je serai pur. On la trouve, je ne sais plus où ailleurs, et on la trouve dans l'évangile de Jean, puisque on dit à la Passion qu'on va mettre une éponge au bout d'une branche d'isope pour la faire boire à Jésus. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ce que c'est qu'une branche d'isope, c'est une espèce de pauvre herbe en fait. Essayer de faire tenir une éponge là-dessus, ça va être un peu compliqué. Donc ça veut sans doute dire autre chose. Et quand on reprend l'ensemble de ces petits indices, il y en a d'autres qui m'échappent, on se rend compte en tout cas que si l'Isope est dans l'évangile de Jean au moment de la crucifixion de Jésus, ça veut peut-être dire qu'il est question d'agneau pascal dans cette histoire, puisque l'Isope apparaît pour asperger les murs des maisons des Hébreux de façon à ce qu'ils ne soient pas détruits par l'ange exterminateur lors de la Pâque. Et qu'on utilise pour purifier. Donc peut-être que le sang de cet homme a quelque chose à voir avec la Pâque juive, avec la purification et avec la délivrance de l'esclavage. Et vous voyez simplement avec un mot comment on peut faire une lecture avec un fil et apprendre quelque chose qui peut-être peut nous aider. Enfin, on peut faire des lectures par forage. Enfin, vous choisissez un texte. Pas forcément très long. Et puis, vous cherchez 5, 6, 7 traductions différentes. Si vous avez fait des langues anciennes, c'est plus rigolo. Vous allez voir le texte grec, le texte hébreu, et vous regardez de quoi parle ce texte. Quitte à aller voir les commentateurs, qu'est-ce que dit tel père de l'Église, qu'est-ce que dit machin, qu'est-ce que dit truc, mais en essayant d'aller au fond du texte, donc une sorte de lecture par forage. Et tout ça, c'est possible. Chacun d'entre nous peut lire un texte comme il le souhaite, il n'y a pas d'interdit. Moi, les vieilles sœurs de ma communauté, plus vieilles que moi donc, maintenant commencent à être en âge de mourir, celles qui ont 40 ans de plus que moi, elles n'avaient pas le droit, quand elles étaient novices, d'accéder à l'ensemble du texte biblique. Il a fallu attendre un peu avant Vatican II pour qu'elles puissent lire l'ensemble du texte biblique. Bon, nous avons cette chance que nous pouvons le lire, et peut-être même nous devons le lire, pour mieux entendre certaines résonances dans les évangiles qui s'expliquent par des récits de l'Ancien Testament. Et si on ne les connaît pas, ben c'est dommage parce qu'on passe complètement à côté. Je vous donne un dernier petit exemple que je trouve très joli avant d'attaquer ce que j'ai prévu de vous raconter. Vous savez que Marie, une fois après l'Annonciation, s'en va 3 mois. C'est sa cousine. Bon. Eh bien, si vous ne connaissez pas les livres de Samuel, vous ne comprenez pas qu'elle refait un remake de ce qui est déjà arrivé avec David, qui promenait l'Arche d'Alliance et à qui il arrive une mésaventure parce qu'il revient victorieux d'une bataille, donc il danse devant l'Arche d'Alliance, tout ça, David jeune. Hein. Et puis, il y a un des hommes de sa troupe qui... met la main sur l'Arche d'Alliance parce qu'il pense qu'elle va tomber parce qu'elle a heurté une pierre. Le verbe hébreu dit bien quelque chose comme « mettre la main sur ». Et du coup, il est foudroyé, il meurt tout de suite, ça se passe très mal pour lui. Bon. Et David comprend que c'est dangereux d'être désinvolte avec l'Arche d'Alliance. Du coup, il la colle 3 mois chez son cousin. Et puis, il viendra la chercher quand il sera prêt mentalement à accueillir vraiment ce qu'elle est avec crainte et respect. Voilà. Et bien évidemment, c'est la même chose, finalement, l'histoire entre Marie et Élisabeth. Et on va retrouver, d'ailleurs, à la fin de ce texte, le fait que Jean-Baptiste, dans le ventre de Marie, va danser devant l'arche d'alliance qu'elle est, dans le ventre d'Élisabeth, va danser, devant Marie et l'enfant qu'elle porte, Marie, l'arche, la véritable arche d'alliance, de la même manière que dans le livre de Samuel, David danse devant l'arche. Donc toutes ces harmoniques, ben, si on n'a pas lu le livre de Samuel, on les perd, et c'est vraiment dommage. Donc ça, c'est mon introduction. J'ai chaud. Donc il n'y a pas d'ordre hein, dans le topo que je vais vous faire, c'est un peu des petits flashs sur des textes, et vous avez les textes sous les yeux, ce qui vous permettra aussi de mieux les entendre. Alors vraiment mon expérience, pour encore une fois enfoncer le clou, hein, c'est pas une expérience savante, c'est une expérience de lectrice. Alors évidemment, à force de lire, on apprend des choses, mais c'est fondamentalement une expérience de lectrice. Ça veut dire que chacun, chacune de nous peut la faire de façon tout à fait simple. Alors je vous invite, comme première histoire, à aller dans les Actes des Apôtres, au chapitre 8. Je vais m'asseoir pour la lire. L'ange du Seigneur adressa la parole à Philippe en disant « Mets-toi en marche en direction du sud. Prends la route qui descend de Jérusalem à Gaza, elle est déserte. » Et Philippe se mit en marche. Or, un Éthiopien, un eunuque, haut fonctionnaire de Candace, la reine d'Éthiopie, et administrateur de tous ses trésors, était venu à Jérusalem pour adorer. Il en revenait assis sur son char et lisait le prophète Isaïe. L'Esprit dit à Philippe, « Approche et rejoins ce char. » Philippe se mit à courir et il entendit l'homme qui lisait le prophète Isaïe. Alors il lui demanda, « Comprends-tu ce que tu lis ?» L'autre lui répondit, « Et comment le pourrais-je, s'il n'y a personne pour me guider ?» Il invita donc Philippe à monter et à s'asseoir à côté de lui. Le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci. Comme une brebis, il fut conduit à l'abattoir. Comme un agneau muet devant le tondeur, il n'ouvre pas la bouche. Dans son humiliation, il n'a pas obtenu justice. Sa descendance, qui en parlera ? Car sa vie est retranchée de la terre. Prenant la parole, l'eunuque dit à Philippe, « Dis-moi, je te prie, de qui le prophète parle-t-il ? De lui-même ou bien d'un autre ?» Alors, Philippe prit la parole, et à partir de ce passage de l'Écriture, il lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils poursuivaient leur route, ils arrivèrent à un point d'eau, et l'eunuque dit, « Voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé ?» Il fit arrêter le char, ils descendirent dans l'eau tous les deux, et Philippe baptisa l'eunuque. Quand ils furent remontés de l'eau, l'Esprit du Seigneur emporta Philippe. L'eunuque ne le voyait plus, mais il poursuivait sa route tout joyeux. Alors c'est une chouette histoire. Et la première chose, c'est que l'eunuque n'a pas de nom. Et moi, j'aime à croire que quand un personnage biblique n'a pas de nom, c'est que nous pouvons y inscrire le nôtre. Notamment, le disciple bien-aimé n'a pas de nom, peut-être parce que nous pouvons chacun de nous être le disciple bien-aimé. Donc, l'eunuque n'a pas de nom. Il est sur son char, en train de lire Isaïe, et Philippe lui pose une très belle question que nous pourrions entendre chacun d'entre nous, toujours, c'est jamais fini de l'entendre. Comprends-tu ce que tu lis ? Il y a bien des fois quand même où c'est pas sûr qu'on dise ouais, facile, non, non. Quand vous lisez le Lévitique, bien. Et l'eunuque a une très honnête réponse puisqu'il dit comment le pourrais-je s'il n'y a personne pour me guider ? Et ça aussi, ça veut dire qu'il. Vous voyez, je vous ai donné tout à l'heure en intro des exemples d'autres lecteurs que j'ai lus. C'est-à-dire, c'est en lisant les commentaires des autres, en écoutant les commentaires des autres, qu'on apprend aussi à lire. On n'est pas dans un vase clos en régime chrétien, c'est la communauté chrétienne qui apprend à lire ensemble. Alors, lors de l'office, dans la liturgie comme dans l'Eucharistie, mais aussi quand on est chez soi tout seul, en lisant d'autres commentaires qui nous donnent des idées pour lire à notre tour le texte, y compris pour se détacher des commentaires qu'on a lus. Et donc Philippe va commencer à expliquer la parole, exactement comme Jésus l'avait fait avec les disciples d'Emmaüs, également écrit par Luc. Hein. Luc a écrit les Actes comme son évangile. Il me semble que prêcher, c'est donner la parole. C'est ce que fait Philippe. Finalement, il donne, c'est pas seulement qu'il écoute ce que dit l'eunuque, mais il lui donne la parole au sens où il lui donne les clés pour entendre pour lui-même ce que dit la parole. Et pour ça, il se met à sa hauteur. Il s'assoit à côté de l'eunuque. Il se fait son compagnon. Or, que lit l'eunuque ? Il lit le passage d'Isaïe qu'on appelle les chants du serviteur, que dans la tradition chrétienne, on reconnaît comme étant un portrait du Messie et du Messie souffrant. Et dans les Actes, l'eunuque le lit, Isaïe, dans sa version grecque, dans la version de la Septante, qui est une version d'une traduction de l'hébreu avant l'époque des évangiles. Et dans la traduction d'Isaïe en grec, il y a un petit morceau de texte qu'on n'a pas, nous, dans nos Bibles, qui est, qu'on a dans nos Bibles là, en fait, mais qui n'existe pas dans le texte d'Isaïe, si vous allez le voir, sa descendance, qui en parlera ? Et l'eunuque a de quoi être saisi, parce que un eunuque n'a pas de descendance. Et donc, il est en train de se dire, mais de qui il parle ? Parce que ça parle de moi, cette histoire. Et donc, quand il demande à Philippe « De qui le prophète parle-t-il » c'est pas seulement une question théorique, c'est pour lui une question existentielle, parce qu'il se sent concerné par ce texte de façon extrêmement précise. Alors, on ne connaît pas la réponse de Philippe, et c'est bien dommage. Peut-être que, on peut gloser, hein, chacun d'entre nous, peut-être que Philippe lui dit « ce texte parle du prophète Isaïe », peut-être qu'il lui dit que ce texte parle de Jésus, peut-être qu'il lui dit que ce texte parle de lui-même, mais que du coup, cette histoire d'Isaïe, de Jésus ou la sienne, c'est la même histoire. Et c'est pour ça que le Christ nous sauve, parce qu'il se met dans notre histoire, il devient notre histoire. Et ce que nous dit le texte, c'est Philippe prit la parole, et à partir de ce passage de l'Écriture, il lui annonça l'Évangile de Jésus. La première bonne nouvelle de l'Évangile, c'est que l'Écriture parle autant de nous que de Dieu. Et l'eunuque le comprend, puisqu'il demande le baptême, afin d'être configuré au Christ, afin de devenir lui-même Christ, serviteur souffrant, privé de descendance par amour pour les autres. Et puis l'eunuque va son chemin dans la joie. Oui, donc il y a un écho assez net avec le récit des pèlerins d'Emmaüs, et cette question de Jésus, de quoi parliez-vous en chemin ? Cette question de Jésus, de quoi parliez-vous en chemin ? Nous pouvons aussi l'entendre pour nous-mêmes, c'est-à-dire qu'en fait, de quoi nous parlons-nous quand nous parlons ? Est-ce qu'on se parle de potin, de la météo ? Est-ce que nous nous parlons vraiment quand nous nous parlons ? Est-ce que nous nous parlons de choses importantes ? Voilà. Cette question, encore une fois, je n'ai pas de réponse. La réponse, elle est différente aujourd'hui, demain, après-demain. Donc, c'était la première histoire. Deuxième histoire. c'est le mouvement inverse. C'est, je vais vous raconter une petite tranche de vie. C'est parfois une tranche de vie qui nous fait comprendre un texte de la Bible. Alors l'histoire se passe il y a assez longtemps. Donc, moi, je travaille à la prison de Fleury-Mérogis, qui est au sud de Paris, depuis 26 ans. À la prison des femmes depuis, je ne sais plus combien, 22 ans. Et au début, où j'étais encore jeune et consciente, peut-être. Pourtant, je fais très attention de ne pas mélanger les choses. Je suis comme médecin payé par l'hôpital public. La laïcité française, c'est très important. Donc, j'y vais dans cette tenue. Il n'y a pas marqué bonne sœur sur mon front. Et je fais mon travail de médecin de l'hôpital public. Bon. Néanmoins, à deux reprises, au début où j'étais là, j'avais demandé aux aumôniers s'ils pensaient que je pouvais venir une fois à la messe avec les détenus, un jeudi saint avec les hommes, et une autre fois avec les femmes pour l'épiphanie. Alors, la fois où j'étais allée avec les hommes, j'étais vraiment jeune, hein, donc c'était, je sais pas, j'avais 30 ans. L'aumônier que je connaissais bien, qui était un frère dominicain, m'avait dit, écoute, je réfléchis 3 jours et puis je te dis. Donc, au bout de 3 jours, il m'a dit, oui, tu peux venir. Ok. Ça, c'est le jeudi matin. J'étais de permanence, donc j'avais le bide de permanence, comme ça, bon, j'avais pas grand chose à faire d'autre que d'être là. Et puis, coup de bol, on m'a pas appelé, donc j'ai pu rester le temps de la célébration. Alors, c'était assez marrant parce que dans un bâtiment, là où je travaille, il y a 4500 détenus, c'est très grand. Il y a 5 bâtiments d'hommes et 1 bâtiment de femmes. Donc, j'étais dans un des bâtiments des hommes. Avec le 4e étage, il y a une salle polyvalente qui fait un peu la surface de cette pièce, mais dans l'autre sens, c'est en largeur, comme ça, une espèce de demi-cercle. Il peut y avoir des projections de cinéma, des choses comme ça, et ça se transforme en chapelle une fois par semaine. Donc là, un jeudi matin, c'était redevenu une chapelle. Donc il y avait sans doute une trentaine de détenus qui étaient là, avec les bassines en plastique de Fleury-Mérogis, avec marqué administration pénitentiaire, les serviettes éponges avec marqué administration pénitentiaire, et à la porte, un surveillant qui lisait l'équipe, le journal sportif local, en attendant que ça se passe. Ce qui fait que moi, maintenant, quand je lis les histoires de la Passion de Jésus, je vois toujours des centurions qui lisent l'équipe. C'est un petit séquel du truc. Ouais. Et c'était très touchant parce que les détenus disaient à Réginald l'aumônier, non, mais tu vas pas me laver un pied, c'est ridicule, il faut laver les deux pieds, puis aussi les mains, etc. etc. comme dans l'évangile, en fait. Et le soir, avec ma communauté, j'étais allée à la célébration très bien préparée des jésuites à Saint-Ignace à Paris. Vraiment nickel. Enfin, il n'y avait pas un cheveu qui dépassait. Je repensais à celle du matin et je me disais, ben non, la vraie, c'est ça. Donc, premier épisode. Deuxième épisode, quelques années plus tard. Donc là, j'ai peut-être 32 ans, 33 ans, par là. Depuis, du coup, je suis retournée après. Mais je pense qu'il ne faut pas mélanger les gens. Mais n'empêche que c'était un dimanche matin, j'étais encore de garde, et c'était des gens de mon village. À l'époque, j'habitais au sud de Paris, dans un petit village qui s'appelle Dourdan, et c'était des gens de Dourdan, de la paroisse, qui animaient la messe à la prison des femmes. Donc, je m'étais, là, pour le coup, je m'étais autorisée à y être, sans demander la permission de personne, en me disant, j'arrive en retard, je me mets dans un petit coin, puis je pars avant la fin, comme ça on ne me verra pas trop. Ça a complètement foiré, tout le monde m'est tombé dessus pour me demander des paumes et des doliprane. Mais c'est une autre histoire. Donc, je me pointe un peu après le début, et à la maison d'arrêt des femmes de Fleury, c'est particulier parce qu'on reçoit toutes celles qui sont arrêtées à l'aéroport de Roissy. Donc, on a actuellement, par exemple, 45 nationalités. Des femmes qui viennent d'Amérique latine avec des boulettes de cocaïne dans le ventre, etc., etc. Donc, il y a beaucoup de monde étrangers, catholiques pratiquants, et à l'époque, alors c'était donc, je vous dis, il y a bien 20 ans, hein, à l'époque, sur 300 détenus, il y en avait en gros, allez, 200, 180 qui étaient à la messe, ce qui en faisait la paroisse la plus pratiquante de France, je pense, largement. Dans le lot, elles n'étaient pas vraiment toutes catholiques, donc bon, voilà, mais ça leur faisait une petite sortie, et l'aumônier était habitué. Ce qui fait qu'au moment de la communion, il leur disait, ben voilà, celles qui ne sont pas catholiques, vous vous mettez les mains comme ça. Et très bien, ça se passait très bien. Et donc moi je vois, donc c'était le jour de l'épiphanie, donc ils avaient mis une petite crèche devant l'hôtel et un grand crucifix en bois sur un des piliers de la salle polyvalente. Et au moment de la communion, je vois donc des patients que je connais bien, qui sont mes vieilles copines, braqueuses de vieilles dames et toxico, qui je vois en général 4 mois tous les 2 ans, ou 6 mois tous les ans, ça dépend desquelles. Qui sont quand même des femmes avec une vie vraiment abîmée, enfin difficile et tout. qui, alors communie ou communie pas, selon je m'en rappelle pas, se fiche éperdument de la crèche, mais vous avez bien 6 ou 7 qui tombaient à genoux devant la crèche, en pleurant. Et ça, ça m'a saisi, cette image, où je me suis dit, mais en fait, oui, le type qui est là, il est quand même condamné par la justice. Et donc, elles comprennent immédiatement un truc que peut-être en 10 ans de théologie, on ne comprend pas, qu'il est de leur côté, qu'il n'y a pas de différence, en fait. Et que c'est de ce côté-là du monde qu'il a choisi d'être, et pas ailleurs. Et que si la croix nous sauve, c'est sans doute ça, c'est qu'il est comme nous, y compris quand on est détenu à Fleury-Mérogis pour des trucs plus ou moins graves, parfois très graves, parfois pas trop. Mais il est de ce côté-là du monde, parce qu'il n'y a pas deux côtés du monde, il n'y en a qu'un. Et c'est ce côté-là qu'il a choisi, d'être du côté des coupables, y compris s'il est lui l'innocent par excellence, et qu'il est en même temps complètement du côté des innocents, voire du côté des victimes. Mais, comme dit très bien l'épître aux Éphésiens, il en lui est détruit le mur de la haine. La séparation entre les Grecs et les Juifs, entre les femmes et les hommes, entre les esclaves et les hommes libres, entre les coupables et les victimes, est détruit parce que lui, seul, personne d'autre, a détruit le mur de la haine. Et du coup, je suis allée relire ce long chemin pour en arriver là. Je suis allée relire le texte que vous devez avoir de l'évangile de Jean au chapitre 3. Comme Moïse éleva le serpent dans le désert, ainsi faut-il que soit élevé le Fils de l'homme, afin que quiconque croit ait en lui la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, l'unique engendré, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais ait la vie éternelle. Car Dieu n'a pas envoyé le Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par son entremise. Qui croit en lui n'est pas jugé, qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique engendré de Dieu. Et tel est le jugement. La lumière est venue dans le monde, et les hommes ont mieux aimé les ténèbres que la lumière, car leurs œuvres étaient mauvaises. Quiconque en effet commet le mal est la lumière et ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient démontrées coupables. Mais celui qui fait la vérité vient à la lumière, afin qu'il soit manifesté que ses œuvres sont faites en Dieu. Alors là, il faut une petite aspirine, mais on va arriver à lire ce texte ensemble. Alors, c'est un texte très important, et vous allez voir, on le lit, si ma mémoire est bonne, au mercredi décembre. Pas sûr, j'ai plus, peut-être, il me semble. Je confonds peut-être avec la deuxième épître aux Corinthiens. Je sais qu'on lit la deuxième épître aux Corinthiens au mercredi décembre. Les bons pères qui sont dans la salle, hein, vous connaissez pas par cœur les lectures du mercredi décembre? Non? Ah bah d'accord. Et les braves sœurs non plus? Non? Nous voilà bien. Comment? D'accord. Donc en fait, c'est un texte relié à la croix glorieuse. C'est ça. C'est un texte très important parce qu'il fait d'abord référence au livre des Nombres. Donc là, vous voyez, c'est aussi important de connaître d'où vient cette histoire de Moïse et du serpent. Dans le livre des Nombres, on raconte encore une fois l'exode des Hébreux qui sont partis d'Égypte et qui traînent dans le désert pendant des années. C'est un désert qu'on devrait traverser en 10 jours. Ils vont y mettre 40 ans, c'est pour dire qu'ils se perdent un peu. Et ils en ont largement assez de manger de la manne au petit déjeuner tous les matins. Donc non seulement il y a de la manne, enfin je pense que la manne au petit déjeuner tous les jours, c'est un peu longuet, pendant 40 ans. Hein. Là-dessus, il y a des serpents qui les mordent et qui tuent un certain nombre d'entre eux. Donc là, Moïse, il voit bien que là, les pauvres Hébreux, ils n'en peuvent plus, ils n'ont qu'une envie, c'est de retourner en Égypte. Ça aussi, c'est toujours à méditer, parce que l'esclavage est tellement confortable, finalement. C'est pas facile, le chemin de la liberté. Donc, l'esclavage, finalement, c'est pas mal. On a des oignons au petit déjeuner, c'est mieux que la manne. Et donc, Moïse intercède pour le peuple. Je suis au livre des Nombres, chapitre 21. Je crois pas que vous l'ayez, vous irez lire. Hein. Et Moïse, vraiment, il est admirable, parce qu'il dit au Seigneur, écoute, c'est pas compliqué, tu nous sors de l'esclavage. Ok, très bien. Sauf que là, on va y retourner si ça continue. Donc, si tu veux vraiment être fidèle à ta parole, eh bien, il faut que tu nous aides à ce que ta promesse se réalise. Voilà. Ce qui fera dire, je fais encore, je vais faire plein de parenthèses, mais c'est plus rigolo. Ce qui fait dire à Jacques Ellul, quand il essaie de réfléchir à l'espérance, que l'espérance chrétienne, c'est obliger Dieu à intervenir dans notre histoire. Au moment où il n'y a plus de raison qu'il intervienne. En lui disant, écoute, c'est bien gentil, mais tu nous as donné la promesse, maintenant, il faut qu'elle se réalise. Donc, s'il te plaît, tu viens nous donner un coup de main. C'est pas dit que le coup de main soit comme on voudrait. Mais, donc, Moïse intercède pour le peuple et le Seigneur dit à Moïse, fais-toi un serpent brûlant et dresse-le au sommet d'un mât. Tous ceux qui auront été mordus, qui le regardent, alors ils vivront. Moïse fit un serpent de bronze et le dressa au sommet du mât. Quand un homme était mordu par un serpent et qu'il regardait vers le serpent de bronze, il restait en vie. Alors, en pensant à ces femmes détenues à genoux devant la croix, et en pensant à l'évangile, et notamment à l'évangile de Luc, où on nous raconte que Jésus est mis sur la croix entre deux coupables, entre deux bandits, je me suis dit que finalement, le Christ a pris la place du serpent. Si Jean l'évangéliste prend le temps de raconter cette histoire, en mettant en parallèle le serpent qui est élevé de terre, et à la fin de son évangile, le Christ élevé de terre, qui va attirer à lui tous les hommes, c'est bien que Jésus prend la place, d'une certaine manière, prend la place du serpent. Autrement dit, il prend la place de l'accusateur, il prend la place du diviseur, il prend la place du menteur. C'est là où je fais le lien avec le mercredi des cendres. Vous verrez que le mercredi des cendres, on lit en première lecture un passage hallucinant d'une épître de Paul aux Corinthiens, qu'on entend des fois sans faire trop attention. Deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 5, verset 21. Dieu l'a fait pécher pour nous, en parlant de Jésus. Non pas péché ER, hein, mais Dieu l'a confondu avec le péché. Ce qui veut dire qu'au pied de la croix, le type qui lit l'équipe, s'il n'a pas trop fait attention, il ne voit pas de différence entre celui du milieu et les deux autres. Il pense que c'est tous trois malfrats. Donc le Christ a accepté d'être confondu avec les coupables afin de prendre sur ses épaules la malédiction de la faute pour nous décharger de la malédiction de la faute. Et je crois que ça, c'est à méditer très profondément. Ce dont il nous sauve, c'est de la malédiction, en fait. C'est-à-dire qu'il prend sur lui la malédiction de la faute, il prend sur lui la malédiction de la mort. Et si on va dans un autre texte de Matthieu, quand il guérit la belle-mère de Pierre, Matthieu cite un passage d'Isaïe qui dit grosso modo qu'il a pris sur lui nos maladies. Bon, parfois on saute au-dessus de ça en disant « bah oui, très bien ». Ça veut dire quoi que Jésus prend sur lui nos maladies, demande Jacques Ellul. Quand il guérit un lépreux, il ne devient pas lépreux. Donc c'est pas ça. De même que si vous allez chez le dentiste, la compassion du dentiste, c'est pas d'avoir mal aux dents à votre place quand il vous soigne vos dents. Donc c'est pas de l'empathie la compassion. D'ailleurs, l'empathie, il faudrait voir de près ce que c'est. Je ne crois pas qu'on puisse souffrir à la place d'un autre. Ça, c'est une parenthèse dans la parenthèse dans la parenthèse. Donc en fait, si Jésus prend sur lui nos maladies, dit Jacques Ellul, c'est peut-être qu'il prend sur lui la malédiction de la maladie et que définitivement, il sépare la malédiction de la maladie. Ça ne veut pas dire qu'on va arrêter de tomber malade. On continuera d'être malade, on va continuer d'être pécheur, parfois même gravement, et on va continuer de mourir. Mais ce n'est plus une malédiction. Et ça, je crois que ça nous sauve profondément de quelque chose d'important qui est, vous savez, il y a cette expression qu'on est condamné. Les détenus, elles savent bien ce que c'est que d'être condamné. Même qu'on est condamné à mort, et quelqu'un qui a un cancer va dire, ben, il est condamné. Jésus nous délivre de la condamnation. Nous ne sommes pas condamnés. Et c'est exactement ce que dit notre texte. Est-ce que nous croyons que c'est vrai? que Dieu n'a pas envoyé le Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par son entremise. Est-ce que nous croyons que c'est vrai? Ouais, c'est vrai. Il n'a pas envoyé le Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par son entremise. On va continuer la lecture. Qui croit en lui n'est pas jugé. Qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique engendré de Dieu. Alors là, on se dit, aïe, 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 ça veut dire quoi ce truc? Pour illustrer ce verset 18, je vous raconte une autre histoire qui, cette fois, est toujours dans l'évangile de Jean, qui est celle de la femme adultère. Donc, vous vous souvenez bien de cette histoire. Il y a une femme qui a été amenée par les pharisiens et les sadducéens pour mettre Jésus, pour piéger Jésus. Il la pose au milieu en disant à Jésus, voilà, elle a été prise en flagrant délit d'adultère. Moïse nous a prescrit de lapider ces femmes-là. Toi, t'en penses quoi? Et Jésus ne répond pas. Il fait des petits dessins sur le sol. La femme, elle est au milieu, donc elle est avec lui. C'est pas mal. Si elle est avec lui, en général, le milieu, c'est là où est Jésus. Donc, elle est un peu en sécurité. Et donc, il propose aux gens, il dit que celui qui n'a jamais péché, lui jette la première pierre. Et nous dit le texte, ils s'en vont tous, un par un, à commencer par les plus vieux. Et Jésus dit à la femme, personne ne t'a condamné? Elle répond, personne. Et il dit, moi non plus, je ne te condamne pas, mais va et ne pêche plus. Si ma mémoire est bonne, en gros. Et un jour, ça m'est apparu avec une forme d'évidence que si ces hommes ne s'étaient pas jugés eux-mêmes, c'est parce qu'ils se sont jugés eux-mêmes qu'ils partent. S'ils ne s'étaient pas jugés eux-mêmes, ils auraient pu entendre aussi pour eux-mêmes la parole de Jésus à la femme, moi non plus, je ne te condamne pas. Mais ils se sont privés d'entendre ça parce qu'ils se sont jugés et condamnés eux-mêmes. Donc, vous voyez comment le rapport au péché, se condamner soi-même, parfois, c'est se priver d'entendre « Moi non plus, je ne te condamne pas. » Et la femme, elle sait parfaitement que oui, elle a péché. C'est pas le sujet. Simplement, elle est tournée vers le Seigneur. Et c'est ça qui va tout changer. Et je crois que c'est ça qui permet de comprendre qui croit en lui n'est pas jugé. Celui qui arrive en étant orienté vers le Christ, y compris avec ses casseroles, en disant au Seigneur, ben écoute, voilà ce que j'ai fait, c'est nul. Maintenant, c'est comme ça que je me présente devant toi. Ça ne veut pas dire qu'il est absous et que tout, enfin, que ce soit trop facile, mais c'est comme ça qu'il se présente devant lui. Alors que celui qui n'ose pas se présenter devant lui, se prive d'entendre. Moi non plus, je ne te condamne pas. Et si vous lisez la suite de texte, je crois que c'est ça qui est écrit. Tel est le jugement. La lumière est venue dans le monde et les hommes ont mieux aimé les ténèbres que la lumière, car leurs œuvres étaient mauvaises. Vous voyez bien, Jésus ne dit pas du tout que nos œuvres sont bonnes. Hein. Mais voilà ce qu'il dit. Regarde, ça c'est une sorte de faux syllogisme, c'est très intéressant. Quiconque en effet commet le mal est la lumière et ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient démontrées coupables. Et celui qui fait la vérité vient à la lumière afin qu'il soit manifesté que ses œuvres sont faites en Dieu. Donc en fait, on a deux phrases symétriques. Merci pour l'eau. D'un côté, celui qui commet le mal. On pourrait croire qu'en face, il y a celui qui fait le bien, mais pas du tout. En face, on a celui qui fait la vérité. Déjà. Donc, celui qui commet le mal déteste la lumière, il ne vient pas à la lumière. Pourquoi? Parce qu'il a peur que ses œuvres ne soient démontrées coupables. Finalement, celui qui commet le mal, il se prive de la lumière sur ses œuvres, puisqu'il se soustrait à la lumière. En revanche, de l'autre côté, celui qui fait la vérité et qui vient à la lumière, autrement dit, celui qui se tourne vers le Christ avec ce qu'il est, comme il est, celui qui fait la vérité, pardon, eh bien, il vient à la lumière afin qu'il soit manifesté que ses œuvres sont faites en Dieu. Autrement dit, pour dire ça simplement, je pense que l'attitude croyante, c'est de dire en toute vérité devant Dieu, voilà tout ce que je suis, mes bons côtés, mes mauvais côtés, les trucs ratés que j'ai fait ou pas, seul toi peux juger de mes œuvres. Voilà. Alors, tu peux m'éclairer ma conscience, mais seul toi es juge, et moi je ne suis pas capable de juger de mes œuvres sans ta lumière. Et bien souvent, nous nous trompons dans le jugement de nos œuvres. C'est-à-dire qu'on va considérer comme anecdotique un truc qui est sans doute grave, et puis on va considérer comme grave des choses qui sont parfois très anecdotiques. Donc, d'avoir ce courage, qui est de se présenter devant Dieu comme nous sommes, y compris avec nos œuvres coupables, hein, mais à sa lumière, pour que lui juge de nos œuvres, je pense que c'est cela que nous dit ce texte. Ça veut aussi dire que dans nos vies, rien n'est indigne du Christ, y compris notre péché. Ce qui compte, ce n'est pas de passer notre temps à nous demander si nous avons péché ou non, ce qui sera encore une forme de nombrilisme, mais de contempler le Christ, de tourner notre regard vers lui, ce que fait le bon larron. Je crois que les femmes de la prison, qui pleurent au pied de la croix, elles ont compris ça. D'une certaine manière, le détachement dont on parle beaucoup dans la spiritualité chrétienne, ça commence par ça, ça commence par se détacher de nos propres péchés, non pas parce qu'ils ne seraient pas graves, mais parce que la meilleure manière d'en guérir, c'est de ne pas s'y complaire, et donc de les présenter à Dieu comme le reste. Voilà. Vous voyez, tout ça m'a été suggéré par une situation à la prison. Donc, c'était vraiment pour illustrer que la Bible peut éclairer nos vies, et parfois c'est nos vies qui vont éclairer d'une nouvelle couleur, d'une nouvelle note, un texte biblique qu'on a entendu 15 fois, 20 fois, et qui subitement prend une tonalité différente à la suite d'un événement. Mais pour ça, il faut le lire, le texte. C'est-à-dire que si vous ne l'avez pas lu avant, la situation que vous traversez ne fait pas écho au texte puisque vous ne l'avez pas lu. Ça va toujours ? Bon, ça va. On reste ensemble jusqu'à 23h, c'est ça ? D'accord. Pas de problème. Alors, troisième histoire. Zachée. Alors là, c'est un petit exemple pour montrer que parfois le texte biblique, il est dérangeant parce qu'il met à nu nos propres fonctionnements. Et là, il y aura deux histoires pour illustrer cela. Première histoire, Zachée, que vous connaissez par cœur. Entré dans Jéricho, Jésus, donc Luc 19, 1, 10. J'avais mis la traduction de Sœur Jeanne d'Arc, je crois, sur la feuille. Mais c'est bien comme ça, on va voir la différence. Donc, je vous le lis dans une traduction qui n'est pas celle que vous avez. Comme ça, vous allez tout de suite voir la différence. Entré dans Jéricho, Jésus traversait la ville. Survint un homme appelé Zachée. C'était un chef des collecteurs d'impôts et il était riche. Il cherchait à voir qui était Jésus, mais il ne pouvait pas à cause de la foule. Il était de petite taille. Il court devant, monte sur un sycomore pour le voir. C'est par là qu'il devait passer. Quand il arrive à cet endroit, Jésus lève le regard et dit « Zachée, hâte-toi, descends, car je dois aujourd'hui demeurer dans ta maison. » Il se hâte, descend et l'accueille avec joie. Voyant cela, tous murmurent et disent, c'est chez un homme pécheur qu'il est venu loger. Zachée, debout, dit au Seigneur, voici, Seigneur, je fais don au pauvre de la moitié de mes biens, et si je fais tort à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Alors Jésus dit à son propos, aujourd'hui, le salut est venu dans cette maison, car lui aussi est un fils d'Abraham. En effet, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Alors, qu'est-ce que vous avez vu comme différence? Comme différence importante.
La maison.
La maison, oui. Le logis, la maison. Ah bon, peut-être, oui. Si, dans son logis. Bon, pas grave. Un autre truc plus important. Oui. À quel endroit? Exactement. Seigneur, je vais donner au lieu de je fais don aux pauvres. Exactement. C'est ça qu'on va commenter ensemble. Donc, Jérusalem est situé sous le niveau de Jérusalem. Jéricho est situé sous le niveau de la mer. Elle est connue dans l'Ancien Testament pour avoir été livrée entre les mains de Josué après avoir été cernée pendant des jours par le peuple hébreu en marche vers la terre promise. Et il y avait au sein de Jéricho une femme prostituée, Rahab, qui avait aidé le peuple en espionnant de l'intérieur sa ville. Ce n'est donc pas la première fois que le Seigneur vient chercher et sauver ceux qui semblaient perdus à Jéricho. Vous irez lire ça au livre de Josué. Cette femme d'ailleurs, Rahab, va être élevée par Matthieu au rang des matriarches pour avoir donné vie à Boaz. C'est donc une arrière-arrière-arrière-arrière-grand-mère de Jésus. Et donc voilà Zachée qui n'est mentionné qu'ici dans l'évangile selon Luc. C'est un publicain, un collaborateur qui s'enrichit grâce à l'occupant, qui est donc jugé pécheur par ceux qui sont là. Il est petit mais déterminé et le voilà qui monte à un arbre pour voir Jésus parce que oui, il veut absolument le voir. Mais c'est Jésus qui le voit le premier. Et c'est intéressant parce que Jésus lève la tête vers lui, que tout le monde regarde habituellement de haut, comme il est petit. Je me suis attardée à ça, et je suis allée chercher, c'est ça les lectures vagabondes qui sont agréables, hein, à quel moment Jésus lève la tête, ou lève les yeux. Et en fait, en général, il lève les yeux pour parler à son père. Là, il lève les yeux pour parler à Zachée. Pas banal, hein. Il lève la tête vers lui que tout le monde regarde habituellement de haut. Parce que Jésus est le plus bas de tous. Il lève la tête pour nous regarder, afin que nous ne nous fassions pas mal au cou quand nous le regardons. Jésus cueille Zachée comme un fruit mûr. Alors vous verrez si vous lisez mon truc sur les fruits là, le sycomore c'est une sorte de figuier. J'ai vraiment appris ça en travaillant ce thème. Hein. Donc, j'ai fait tout un machin sur les figuiers et je suis arrivée sur les sycomores. Et le sycomore, c'est vraiment le figuier de base qui donne des espèces de fruits pour les cochons. Un figuier bas coût, bon marché, Lidl, quoi. Au Lidl, peut-être Lidl Price.
On a Lidl.
Ouais, d'accord. Bon. Je pense que le Lidl Price, c'est moins bon que Lidl. Voilà, bref. Donc, Jésus va accueillir Zachée comme un fruit mûr et s'invite dans sa maison. Et voilà qu'une fois qu'ils sont face à face, une parole de vérité peut se manifester. Donc la question déroutante de ce texte, c'est est-ce que nous savons écouter et entendre ce que dit Zachée? Alors on n'est pas aidé par nos traductions, puisque celle que vous avez, la Bible de Jérusalem, de même que celle qui est dans nos missels, fait parler Zachée au futur en disant « Voici Seigneur, je vais faire don aux pauvres de la moitié de mes biens et si j'ai fait du tort à quelqu'un, je vais lui rendre le quadruple. » Sauf que le texte grec est au présent. Un pauvre présent, mais tout ce qu'il y a de plus présent. Il n'y a pas d'histoire, c'est du présent. Du coup, il se pourrait que nos traducteurs et nous-mêmes nous soyons un petit peu dans la position des extérieurs à toute cette histoire, des spectateurs, qui disent « Oh là là, quand même, Zachée, c'est un pécheur. » Et puis, du haut d'une forme de suffisance bienveillante, « Oh, comme c'est bien, il s'est converti, le pécheur, il va donner tous ses biens aux pauvres. » Sauf que peut-être que le texte ne dit pas ça du tout. Est-ce que le texte, au contraire, nous dit que c'est la première fois que quelqu'un écoute vraiment Zachée, et que Jésus est le premier à entendre que Zachée est un homme généreux qui fait don de la moitié de ses biens aux pauvres depuis bien longtemps. C'est une interprétation possible, je ne dis pas que c'est la vérité. Je dis qu'on se met assez volontiers du côté de ceux qui disposent. Zachée se convertit, c'est bien, bravo, voilà. Et peut-être que le salut n'est pas dans la conversion de Zachée, mais dans sa rencontre avec le Christ. Peut-être que le salut pour Zachée, c'est d'être reconnu comme un fils d'Abraham. Jésus voit Zachée, le bon fruit du sycomore, comme personne ne l'a jamais regardé, comme un homme généreux. Et il nous laisse avec cette question pas très facile, hein, mais d'où vient que nous ayons si facilement jugé Zachée ? D'où vient que nous ayons surinterprété ce texte jusqu'à oublier une de ses lectures possibles, non plus moralisante, mais profondément large et bienheureuse ? Pourquoi avons-nous tellement besoin d'assister à la conversion de Zachée ? Comme si nous voulions toucher de nos mains l'efficacité de la rencontre entre Jésus et lui. Pourquoi aspirons-nous à voir un effet immédiat sur Zachée de la présence de Jésus ? On peut être perdu, condamné, simplement parce que les autres nous jugent perdus d'avance. Et croyez-moi, en prison, j'en rencontre des gens comme ça, qui arrivent là pour des vrais délits, parce que depuis l'enfance, on leur a expliqué qu'ils étaient nuls, qu'ils étaient mauvais, on les a tapés, on les a virés, on leur a dit qu'ils étaient tout pourris, et qu'à force, eh bien, on finit par faire des trucs tout pourris. Une dimension autoréalisatrice de la parole qu'on entend. Nul ne sait ce que fera Zachée après sa rencontre avec Jésus, et le texte, heureusement, reste pudique là-dessus. Parce que sa générosité, peut-être, est-elle discrète ? Elle n'appartient qu'à lui. Et sans la rencontre avec Jésus, peut-être nous n'en aurions pas eu connaissance. Et vous voyez qu'elle est tellement discrète qu'elle se cache sous des traductions forcées. Énigmatique. Alors, une autre histoire dans la même veine. Celle du fils prodigue, Luc 15. Je m'assois. Hein. Il dit encore, donc c'est Jésus qui parle en parabole dans l'évangile de Luc. Un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, « Père, donne-moi la part de fortune qui me revient. » Et leur père leur partagea son bien. Peu de jours après, rassemblant tout son avoir, le plus jeune fils partit pour un pays lointain, et il dissipa son bien en vivant dans l'inconduite. Quand il eut tout dépensé, une famine sévère survint en cette contrée, et il commença à sentir la privation. Il alla se mettre au service d'un des habitants de cette contrée qu'il envoya dans ses champs garder des cochons. Il aurait bien voulu se remplir le ventre des caroubes que mangeaient les cochons, et personne ne lui en donnait. Rentrant alors en lui-même, il se dit « Combien de mercenaires de mon père ont du pain en abondance, et moi je suis ici à périr de faim. Je veux partir, aller vers mon père et lui dire « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne mérite plus d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. » Il partit donc et s'en alla vers son père. Tandis qu'il était encore loin, son père l'aperçut et fut pris de pitié. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa tendrement. Le fils alors lui dit, « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne mérite plus d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Vite,
Apportez la plus belle robe et revêtez-la. Mettez-lui un anneau au doigt et des chaussures aux pieds. Amenez le veau gras, tuez-le, mangeons et festoyons. Car mon fils que voilà était mort, il est revenu à la vie, il était perdu et il est retrouvé. Et ils se mirent à festoyer. Son fils aîné était au champ. Quant à son retour, il fut près de la maison, il entendit de la musique et des danses. Appelant un de ses serviteurs, il s'enquérait de ce que cela pouvait bien être. Celui-ci lui dit « C'est ton frère qui est arrivé et ton père a tué le veau gras parce qu'il l'a recouvré en bonne santé. » Il se mit alors en colère et il refusait d'entrer. Son père sortit, l'en priait, mais il répondit à son père « Voilà tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé un seul de tes ordres. » Et jamais tu ne m'as donné un chevreau à moi pour festoyer avec mes amis. Et puis ton fils que voici revient-il après avoir dévoré ton bien avec des prostituées, tu fais tuer pour lui le veau gras. Mais le père lui dit, toi mon enfant, tu es toujours avec moi et tout ce qui est à moi est à toi. Mais il fallait bien festoyer et se réjouir puisque ton frère que voilà était mort, il est revenu à la vie, il était perdu. Et il est retrouvé. Alors c'est un peu un dépaysement comme celui qu'on vient de voir que je vous invite à faire. Au tout début de notre texte, j'ai oublié de rester sur la table parce que j'ai trois feuilles pour m'étaler là. Au tout début de ce texte, le Père leur donne à chacun le bien. En grec, le mot, c'est « bios », qui veut dire aussi « la vie ». Alors, le plus jeune part vers un pays lointain, et là, il disperse son patrimoine en vivant... Alors, la BG traduit dans l'inconduite, mais ce n'est pas du tout ça. Le mot à mot, c'est « en vivant hors du salut ». C'est très important, hors du salut. Et nous avons coutume de penser... que ce jeune fils prodigue a passé son temps à faire la fête avec les prostituées. Mais si on fait bien attention au texte, cela n'est pas indiqué. Ou plutôt, c'est pas indiqué directement. C'est le fils aîné qui le dit à son père. Donc nous l'apprenons par le fils aîné. Le narrateur ne le dit pas. Mais nous l'avons à ce point inscrit dans notre imaginaire... parce que nous avons écouté les mauvaises langues, peut-être précisément à partir des ragots du fils aîné. Et là, je fais une petite digression, pour ça, il faut que j'ai de la place. Si vous lisez l'évangile de Luc juste avant, vous irez voir, juste avant, donc toujours au chapitre 15, ce chapitre commence par une altercation avec les publicains qui disaient cet homme avec les pharisiens, pardonnez-moi, parce qu'ils discutent avec les publicains, Jésus discute avec les publicains et les pécheurs, et les pharisiens et les scribes murmurent cet homme fait bon accueil aux pécheurs et mange avec eux. Donc on a une sorte d'écho du ragot du fils aîné immédiatement avant. C'est pas par hasard que c'est juste avant. Et finalement, comment sait-il ce frère aîné qui a perdu une vue en quelque sorte, comment sait-il que son jeune frère a passé son temps avec les prostituées, si ce n'est que lui-même a écouté les rumeurs et les on-dit, exactement comme les pharisiens qui, en parlant de Jésus, disent « il fait bon accueil aux pécheurs et mange avec eux ». Alors ça, c'est tout ce que je vous raconte, je ne l'ai pas inventé, c'est un commentaire d'un monsieur qui s'appelle Henri Denis, un livre qui est paru en 2001, Jésus, le prodigue du Père, qui est une interprétation merveilleuse de ce texte, et qui dit quand même, le fils cadet ressemble furieusement au Christ. Parce que, comme l'annonce l'épître aux Philippiens, il n'a pas retenu le rang qu'il égalait à Dieu, il s'est vidé de lui-même. Il a passé sa vie avec les petits et les pécheurs, avec les publicains et les pécheurs, avec les prostituées et les pécheurs. Il s'est fait mettre à mort comme un bandit hors hors de la ville sainte, hors de Jérusalem, donc d'une certaine manière, hors du salut. Il a tout dépensé, il a tout dépensé de ce que le Père lui avait donné. Et encore une fois, on entend comme en écho la fameuse deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 5, verset 21, « Celui qui n'avait pas connu le péché, Dieu l'a fait pécher pour nous, afin que par lui nous devenions justice de Dieu. » Il l'a confondu avec les pécheurs. Voilà jusqu'où va le Christ pour chercher chacun de nous dans les enfers où il se tient et où il fut jeté. Alors que peut-être est-ce la parole de toute l'humanité qu'il a rejoint, que le Fils porte sur son dos et sur ses lèvres, lorsqu'il revient à son Père, dans la parabole, en disant « J'ai péché contre le ciel et contre toi ». Peut-être s'est-il assimilé à l'humanité pécheresse, mais là, le Père l'interrompt, parce qu'il avait prévu de dire « Je ne suis pas digne de rester ton fils », et là, le Père l'interrompt, parce qu'il est digne plus que jamais d'être son fils, en ayant à ce point rejoint les pécheurs. Lui qui ramène sur son dos tous les fils perdus. Le Père le voit de loin, court vers lui, le prend dans ses bras, alors s'ouvre un banquet, et le fils perdu est revêtu d'une tunique ornée. C'est quand même pas banal. J'avais enquêté il y a quelques années sur les tuniques dans la Bible, et notamment les tuniques de luxe. C'est un petit livre qui s'appelle « Tu as couvert ma honte ». Et les tuniques de luxe, il n'y en a pas 50 000, il y a celle de Joseph dans l'Ancien Testament qui n'est pas déchirée, qui est tachée de sang et pour faire croire à son papa Jacob qu'il a été mangé alors qu'en fin de compte il a été vendu. Donc il y a cette tunique-là. Il y a la tunique du grand prêtre qui est une tunique de luxe. Et puis dans le Nouveau Testament, il y a la tunique du fils prodigue. Et il y a la tunique du Christ sur la croix qui sera tirée au sort. Donc c'est quand même pas banal que précisément dans ce texte-là arrive une tunique ornée, rendue par le Père qui l'habille. Une tunique d'une seule pièce, une tunique de prince, une tunique de fils. Et le Père le fait entrer dans sa joie. Mon fils était mort, il est vivant, il était perdu, il est retrouvé. Vous voyez à quel point ça a des résonances, ce type d'interprétation. Henri Denis nous invite à écouter en écho la fin du cantique de Paul aux Philippiens, au chapitre 2. C'est pourquoi Dieu l'a exalté, il l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Donc, entendre le récit du fils prodigue de cette manière, ça décale de propos. Encore une fois, c'est pas une vérité ultime. Hein. Je suis pas là à vous dire, je vais vous apprendre à lire la Bible, et c'est comme ça qu'il faut la lire. C'est de montrer une polyphonie pour entendre comment le mystère pascal se déploie dans toute une série de textes auxquels on ne ferait pas attention s'il n'y a pas des auteurs qui nous ouvraient les yeux dessus. Ça va toujours, hein ?
Ça va toujours.
Bon, ben c'est bien. Alors, dernière scénette au pluriel. Encore dans l'évangile selon Jean. Alors ça, je vous l'ai pas mis, donc c'est normal que vous ne l'ayez pas, mais c'est pas grave. Je vous disais donc tout à l'heure que j'étais allée à une célébration du lavement des pieds à la prison. Et du coup, alors ça ne m'a pas tout de suite marqué, mais je voudrais vous relire, donc ça vous l'avez pas, le chapitre 13 de l'évangile selon Saint Jean. Ça a quelque chose à voir avec la tunique, parce que il y a deux moments, en fait, dans l'évangile de Jean où Jésus quitte sa tunique,
ce moment de laver les pieds des siens et au moment d'être crucifié. Avant la fête de la Pâque, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde à son Père, Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. Au cours du repas, alors que le diable a déjà mis dans le cœur de Judas, fils de Simon l'Iscariote, l'intention de le livrer, Jésus, sachant que le Père a tout remis entre ses mains, qu'il est sorti de Dieu et qu'il s'en va vers Dieu, se lève de table, dépose son vêtement et prend un linge qu'il se noue à la ceinture. Puis il verse de l'eau dans un bassin, alors il se met à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait à la ceinture. Quand il leur eut lavé les pieds, il reprit son vêtement, se remit à table et leur dit « Comprenez-vous ce que je viens de faire pour vous? Vous m'appelez maître et seigneur, et vous avez raison, car vraiment, je le suis. Si donc moi, le seigneur et le maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns les autres. C'est un exemple que je vous ai donné, afin que vous fassiez, vous aussi, comme j'ai fait pour vous. » Ce texte que nous lisons le jeudi saint, c'est une pure merveille, ce texte. C'est hallucinant, cette histoire. Finalement, Jésus, Dieu fait homme, se met à genoux devant l'homme. Voilà le visage de notre Seigneur. Et c'est quand il se tient ainsi à ras de terre, qu'il se met à la bonne hauteur pour que même ceux qui rampent de honte ou d'effroi puissent le rencontrer. Les courbés, les vaincus, les couchés peuvent à ce moment-là le regarder les yeux dans les yeux et il lave les pieds de tout le monde, y compris les pieds de Judas. Si on a du temps et jusqu'à minuit, je dirais, allez lire dans le livre de l'Exode le passage sur le bassin de purification qui explique que si on ne sait pas purifier, on n'aura pas part au salut. Il y a aussi des liens là-dedans. Je sais plus entre Exode, je ne sais pas quoi, 25-30 par an. Alors, on a coutume de se dire en écoutant ce texte, finalement, Jésus s'agenouille devant les siens pour nous montrer qu'il faut que nous soyons au service les uns des autres. Et je trouve que c'est une interpellation à la fois vraie, mais un peu réductrice. Quand il se met à genoux, Jésus offre le sacrifice d'action de grâce. Autrement dit, il remercie le Père du cadeau que nous sommes pour lui. Rien que ça. Il remercie le Père du cadeau que nous sommes pour lui. Nous sommes le cadeau que le Père fait au Fils. Et ça, on peut le retrouver dans l'Évangile de Jean au chapitre 10, avec l'histoire du bon berger. Vous savez, il y a tout ce passage du bon berger qui connaît l'odeur de ses brebis et la Bible de Jérusalem traduit. Donc là, je suis dans Jean 10, versets 27 à 30. Vous irez voir. Mes brebis écoutent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais. Mon Père, quant à ce qu'il m'a donné, est plus grand que tous. Nul ne peut rien arracher de la main du Père. Je pense que c'est aussi ce qu'on a dans la traduction liturgique. Et quand on va voir le grec, il est aussi possible de traduire « Mon Père, ce qu'il m'a donné est plus grand que tout. » C'est un peu différent. « Ce qu'il m'a donné est plus grand que tout. » Il se pourrait que nous soyons le cadeau que le Père fait au Fils. Et du coup, je crois qu'en lavant les pieds des siens, Jésus remercie son Père, sacrifice d'action de grâce, d'avoir fait de la vie des hommes sa maison et du corps de l'humanité son temple. Si la création est la joie du cœur de Dieu et si en son sein, l'homme, l'être humain, est le bouleversement de ses entrailles, aimer les siens jusqu'à la fin, c'est les aimer jusqu'à ne rien retenir d'autre que la joie de leur présence. Et remercier le Père. Je crois que le Fils, à cette heure si grave, quand il lave les pieds des siens, il continue de remercier le Père. Il s'agenouille devant le temple de Dieu que nous sommes,
C'est un acte liturgique, il se met à genoux devant le temple de Dieu que nous sommes, y compris Judas, qui vient le prendre, et Pierre, qui va le trahir, et il leur demande « Comprenez-vous ce que je vous ai fait ?» Parce qu'il n'est pas sûr que c'est vertigineux cette histoire. Là, je vous raconte ça de façon tranquille, mais si vraiment on s'y arrête, c'est vertigineux, il n'est pas sûr que nous osions aller jusque-là dans la compréhension de ce geste du lavement des pieds. Et de poursuivre, c'est un exemple que je vous ai donné pour que vous fassiez, vous aussi, comme moi j'ai fait pour vous, c'est vraiment de nous dire que nous aussi, nous avons à nous mettre à genoux devant le cadeau que nous sommes les uns pour les autres. Il y a des cadeaux plus ou moins bien emballés. Mais peut-être que d'essayer de rentrer dans cette démarche, c'est d'essayer de se dire que, bah oui, en fait, les gens qui nous sont donnés dans notre entourage sont quand même des cadeaux. Du coup, faire comme lui, c'est essayer de vivre, essayer bien sûr, hein, de vivre de façon à ce que nos existences soient un remerciement offert à nos proches pour les remercier d'exister dans ce même mouvement d'offrande et un remerciement à Dieu. Et c'est reconnaître, et ça non plus c'est pas très simple, que nous sommes devenus le temple de l'Esprit, la maison de Dieu. Et pour conclure, je voudrais lire le petit extrait que vous avez au chapitre 17 de Jean, qui est exactement dans la même ligne que ce que je viens de vous raconter. Vous savez que dans l'évangile de Jean, il y a une sorte d'évangile dans l'évangile qui sont les chapitres 13 à 17 de l'évangile de Jean. Donc ça commence avec le lavement des pieds. Il y a les trois chapitres de discours de Jésus à ses amis. Et ça se termine par le chapitre 17, la prière de Jésus à son Père. Je vous invite vraiment, vraiment à lire d'affilée ces cinq chapitres, la semaine sainte. Il y a une tradition dans l'ordre dominicain où, après le jeudi saint, dans la nuit, entre le jeudi et le vendredi saint, on lit ces chapitres à l'église devant le reposoir et on lit non-stop, avec des temps de silence qui coupent, hein, tous ces discours de Jésus jusqu'à la prière de Jésus inclus. C'est magnifique, c'est vraiment magnifique. C'est fait pour ça. Et donc, dans ce chapitre 17, Jean met en scène Jésus. Donc, il faut bien comprendre l'endroit où c'est. Hein. C'est-à-dire que c'est au moment de la Passion, après la trahison de Judas, et juste avant la trahison de Pierre, qui va arriver au chapitre 18. Et Jésus dit, à partir du verset 6, « J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu as tirés du monde pour me les donner. » Ils étaient à toi, tu me les as donnés. Ça rejoint ce que je vous disais, hein, nous sommes le cadeau que le Père fait au Fils. Tu me les as donnés. Et ils ont gardé ta parole. Si vraiment on fait attention, on se dit, attends voir. Ils ont gardé ta parole. Est-ce bien sûr, tout le monde s'est barré, il y a des personnes. Ils ont gardé ta parole. Ah, bon. Maintenant, ils ont reconnu que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car les paroles que tu m'as données, je les leur ai données. Ils les ont accueillis, ils ont vraiment reconnu que je suis sorti de près de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé. Et là, on se dit, voyons voir. Enfin, c'est quand même vertigineux, c'est-à-dire qu'au moment de la trahison, Jésus assure son Père du fait que nous croyons. Je vous invite vraiment à méditer ça. Hein. On a envie de lui dire, non, tu te trompes, non. Et là, je crois que la foi, et c'est peut-être ça le plus difficile, ce n'est pas de croire en Jésus-Christ, c'est de croire qu'il croit en nous. De croire en nous jusque-là, jusqu'à dire, à l'heure de la trahison, en parlant de chacun d'entre nous, ils ont gardé ta parole, ils ont cru que tu m'as envoyé. Parce que je crois que si croire, c'est croire qu'il croit en nous, c'est un véritable retournement qui nous est demandé. Mais ça veut dire que le sol sur lequel nous marchons n'est pas notre propre foi, mais la foi du Christ. Et que du coup, nous n'avons aucune crainte de ce que ce sol se dérobe. Que notre foi défaille, ça, tous les matins, tous les midis, tous les soirs, en tout cas pour moi. Mais si c'est la croix du Christ qui fonde notre foi, peut-être que là, on peut y aller. croire en l'indéfectible patience de Dieu qui ne demande qu'une chose, que nous nous tournions vers lui. C'est peut-être ça, Pâques. C'est peut-être ça, ce retournement pascal, dans lequel nous sommes entraînés ensemble, portés les uns par la foi des autres et par la foi du Christ, soutenus par la foi du Christ, qui a remercié son Père, un cadeau que nous étions pour lui, et qui se fait notre garant, finalement, notre avocat. Du coup, je me disais, il est possible que notre foi défaillante soit mystérieusement portée par la foi des détenus, des pauvres, des malades, des vieillards isolés. Voilà. Mystérieuse communion des saints portée par la foi.